Et en préparant ce message, j'ai beaucoup lutté. J'ai rencontré des combats comme je n'avais jamais rencontré. Pourtant, le message, il est plutôt simple. C'est qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et en Jésus seul, je place toute ma confiance, tout mon espoir, tout mon trésor. C'est simple comme un message. Mais il y a un ennemi qui veut dissuader nos cœurs de cette réalité. Il y a un ennemi qui veut pénétrer dans nos vies sans qu'on y prenne garde et qui veut couper notre relation avec Dieu. Et ce soir, il ne voulait pas qu'on le dise. Ce soir, il ne voulait pas que ce soit entendu de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne devait pas entendre ça ce soir. Et ce qui vient de se passer, pour moi, c'est la démonstration de la bonté de Dieu. Il fallait qu'on soit unis dans la louange. Il fallait qu'on soit unis dans l'adoration. Il fallait que nos cœurs soient préparés pour entendre sa parole. Amen. Alors, j'ai beaucoup lutté pour ce message. Et puis, je n'arrivais même pas, pour vous dire, à trouver un titre. Je pense qu'en Jésus seul, comme on l'a chanté ce soir, ce sera le titre idéal. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, donc, le texte qu'on va développer, il est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 9 et au verset 21. Deutéronome, chapitre 9, verset 21. « Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai, jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. » Amen. C'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël et qui lui parle du veau d'or, ce produit de votre péché. Et c'est l'expression sur laquelle, en fait, est basé ce message, en fait, le produit de notre péché. Voilà, le peuple venait de vivre de grandes expériences avec Dieu, la mer Rouge, la manne, l'écaille, et d'autres, la colonne de nuée, la colonne de feu. Dieu marchait devant le peuple, et pourtant, le peuple est resté rebelle à Dieu. Et il va fabriquer un veau d'or, c'est-à-dire la représentation de notre Dieu. Et ce veau d'or est le produit du péché. C'est le nom que lui donne Moïse. Le produit de votre péché. C'est pas le péché, c'est le produit du péché. C'est ce qui découle du péché. Alors il y a le péché qui se voit. Ici, le péché qui se voit, c'est le veau d'or. Et puis il y a ce qu'il y a avant. Et ce qu'il y a avant ne se voit pas forcément. C'est ce qui se passe dans nos cœurs. Et ce qui se passe dans nos cœurs, qui est invisible, produit des choses qui sont visibles. Et parfois, on va regarder une personne et on va dire, ben voilà, voilà son péché, voilà ce qu'elle est capable de faire, voilà le mal qu'elle est capable de faire. Mais en fait, c'est juste, on va dire, la partie visible de l'iceberg. Et il y a tout le reste qui a pris place un certain temps avant. Parce qu'avant le produit du péché, il y a le péché lui-même. Et avant le péché, il y a une attitude spirituelle, il y a une relation à Dieu qui à un moment donné fait défaut, qui à un moment donné n'est pas bonne. Et cette disposition de cœur, cette relation avec Dieu qui n'est pas bonne, produit le péché, qui génère le produit du péché. Qu'est-ce qui est le plus grave? Le veau d'or que l'on voit ou ce qu'il y a avant et qu'on ne voit pas? En fait, je pense que les deux sont graves. Le fait de se faire un dieu, de se faire une idole, de se faire une statue, c'est grave. Mais ce qu'il y a avant, c'est-à-dire l'infidélité, l'ingratitude, la rébellion vis-à-vis de Dieu qui a produit ce péché, elle est tout aussi grave. Elle est même peut-être plus importante. Et elle est la démonstration, en tout cas, que sans l'invisible, le visible n'existe pas. Sans l'ingratitude du peuple, le veau d'or n'aurait jamais existé. Donc la premier élément sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est ce peuple d'Israël qui est dans l'erreur et sur ce produit du péché, donc c'est un veau d'or. Pourquoi un veau? Donc c'est un peuple qui avait vécu plus de 400 ans dans l'esclavage en Égypte. Et d'ailleurs, ben, les habitants du peuple d'Israël, les membres du peuple d'Israël qui étaient là, étaient nés en Égypte, ils étaient nés de parents qui étaient nés en Égypte, de grands-parents, voire d'arrière-grands-parents qui étaient nés en Égypte, ils avaient baigné dans cette culture. Alors peut-être qu'ils ne vouaient pas un culte aux dieux égyptiens, mais en tout cas, ils étaient dans cette culture, ils étaient dans cet environnement. Donc ils avaient entendu parler des divinités égyptiennes. Et dans la mythologie égyptienne, le veau était un animal sacré. Le veau, la vache, le taureau étaient des animaux sacrés. On leur dédiait des idoles, des cérémonies, des cultes, etc. Donc ils avaient entendu parler très certainement de ce veau. Et l'image du veau d'or, quelque part, venait de cette culture qui faisait référence à leur vie en Égypte. Mais fait référence aussi à une certaine peur de la liberté. Dieu les avait affranchis de l'esclavage du Pharaon. Et pourtant, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple élu de Dieu, veut se fabriquer un veau d'or qui fait référence à cet esclavage. Ils veulent revenir, c'est comme s'ils voulaient revenir à cet esclavage qu'ils ont connu. C'est comme si on les avait libérés, on avait ouvert la porte de la prison, et eux voulaient se fermer de nouveau dans la prison, refermer la porte de la prison et remettre le cadenas. Ils voulaient se refaire prisonniers. Ils avaient le Dieu de la liberté qui les conduisait, et ils voulaient tourner le dos et aller vers une statue, un veau d'or, qui allait les mener nulle part. Et donc ce produit du péché, ce veau d'or qui est le produit du péché, vient d'un péché qui est donc le péché de l'idolâtrie. Dieu avait rencontré Moïse sur le mont Sinaï, qui est appelé dans l'Ancien Testament le mont Horeb, et il lui avait donné les commandements, les 10 commandements. Et on lit dans Exode au chapitre 20, verset 3, verset 3 à 5. Les commandements qui font référence justement à ce rapport aux idoles. Et donc Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. C'est le premier commandement. Et d'ailleurs Jésus y fera référence. Et Jésus dira, c'est dans Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il rajoute, c'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Notre Dieu est le seul Dieu. Notre Dieu est le Dieu unique. C'est dit, c'est répété à de multiples reprises dans la Bible. Il s'appelle de plusieurs noms, mais c'est le même Dieu. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il est le Dieu de toute éternité. Et là, on a un peuple qui a expérimenté de grandes choses avec Dieu, et qui malgré tout est prêt à lui tourner le dos. Et il choisit, pour ça, il choisit un veau d'or. Pourquoi un veau? On a dit, bon, il y a la mythologie, mais pourquoi se fabriquer une statue? C'est une statue, c'est immobile, ça n'a pas vocation à créer une relation avec le peuple, c'est un objet, on ne va rien y trouver. Mais en même temps, ce n'est pas exigeant, une statue, elle ne va rien vous demander. Elle ne va rien nous demander. Les hommes ont beaucoup d'idoles dans leur vie. Des chanteurs, des sportifs, des hommes politiques, je ne sais pas. Parfois on s'idolâtre nous-mêmes. Parfois c'est notre travail qui est une autre idole. Notre voiture, notre sport, notre apparence. On a beaucoup d'idoles en fait. Mais souvent des idoles avec lesquelles il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'échange possible. En fait, on ne rendait compte qu'à nous-mêmes avec ces idoles-là. Et quelque part, au travers de ces idoles, c'est nous-mêmes que nous adorons. Les hommes aiment être adorés. Les hommes recherchent Dieu, ils recherchent un Dieu, mais pas le Dieu vivant. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu grand, parce qu'il a des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Il a une ambition pour nous, il a une vision d'excellence pour nous. Ce qu'il veut pour nous, c'est la vie éternelle, c'est le top du top. Un père ne peut pas avoir une plus belle ambition pour ses enfants que de leur donner la vie éternelle, que leur âme soit sauvée. Qu'est-ce qu'un père pourrait donner de plus grand, de plus beau à ses enfants? Une idole ne nous donnera jamais tout ça. J'ai noté 4 mauvaises attitudes spirituelles dans la conduite du peuple d'Israël. Et ces 4 mauvaises attitudes spirituelles vont produire le péché d'idolâtrie. On va lire dans Exode chapitre 32, verset 1. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils avaient la colonne de nuée qui marchait devant eux le jour. Ils avaient la colonne de feu qui les éclairait la nuit, et ils demandent un Dieu pour marcher devant eux. Donc la première mauvaise attitude spirituelle que je vois ici, c'est l'ingratitude. Un Dieu qui marche devant nous. Ils ont connu la libération de 400 ans d'esclavage, la mer Rouge, la manne, l'écaille. Ils ont expérimenté la bonté de Dieu qui pourvoit tous leurs besoins. On l'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit tous leurs besoins. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Ils murmurent, ils ne sont pas contents et ils en veulent plus. Et maintenant, ils veulent une statue qui marche devant eux, comme si une statue pouvait marcher. À moins qu'ils la portent, peut-être. Donc l'ingratitude. Vous voyez, quand j'ai dit tout à l'heure, l'ingratitude va aboutir au veau d'or, c'est la disposition de leur cœur qui n'était pas bonne. Et cette ingratitude va conduire à l'idolâtrie et puis le veau d'or. La deuxième mauvaise attitude, c'est l'impatience, puisqu'il est dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Il leur fallait un dieu, tout de suite, n'importe lequel. Donc là, ça a été un veau, mais il leur fallait une statue, il leur fallait un dieu. Quelque chose pour remplacer Moïse, puisque Moïse tardait à descendre. Et pourtant, avant de monter sur la montagne, donc à la rencontre de Dieu, Moïse avait donné des instructions dans Exode 24, au verset 14. Exode 24, 14, Moïse dit au peuple ce qui va se passer. Il annonce ce qui va se passer. Donc, Exode 24, 14, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici. Donc, voilà l'instruction. Attendez-nous ici, c'est clair. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions. Les instructions étaient claires. Et il dit ça aux anciens. Donc, Aaron et Hur. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Et si quelqu'un a un différend, donc un problème, une question, un doute, c'est à eux qu'il s'adressera. Donc il donne des instructions claires aux anciens. Et en même temps, il leur dit, s'il se produit une situation de doute, vous irez voir Aaron et Hur. Mais attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions. Les instructions étaient très claires. Mais l'impatience va l'emporter. Et puisqu'il est dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à revenir, va demander un veau d'or. Le troisième point, le troisième défaut, on va dire, c'est l'aveuglement spirituel. Le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Ils avaient déjà Dieu avec eux. L'Éternel était avec eux. L'Éternel les avait libérés d'Égypte. L'Éternel les avait conduits jusqu'au Sinaï. Ils avaient traversé le désert. Et Dieu avait pourvu à leurs besoins. Et à présent, ils voulaient un Dieu. Alors, que font-ils? Ils se tournent vers Aaron. Fais-nous un Dieu. Et là, Aaron, qui est quelque part le garant spirituel, en l'absence de Moïse, lui aussi va faire preuve d'aveuglement. Parce qu'en fait, il ne va pas du tout faire obstacle à la demande du peuple. Vous voulez un veau? On va faire un veau. Il va même leur dire comment le faire. Il va même rajouter, donc c'est le verset suivant, Aaron leur répondit, prenez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Donc non seulement il ne s'oppose pas, non seulement il ne joue pas son rôle de leader spirituel, d'ancien, comme Moïse lui avait demandé de le faire, mais en plus, il va trouver des solutions pour que le peuple parvienne à son objectif de faire une statue, de faire une idole. L'aveuglement spirituel. Et le quatrième défaut, l'infidélité. On lit dans Exode chapitre 32, verset 4. Donc c'est le peuple qui parle, qui parle devant le veau d'or. Et ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils sont d'une infidélité totale. Dieu ne compte plus pour eux. Et ils en sont à un point où ils remplacent Dieu par la statue d'un veau et ils disent que c'est le veau qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse savait ce qui allait se produire. Il savait que le peuple était fragile et qu'à tout moment, il pouvait se détourner de Dieu. Et il avait donné ses instructions avant de partir en leur disant, attendez. Attendez jusqu'à ce que nous revenions. Et s'il y a un problème, s'il y a un conflit, s'il y a un doute, aller vers Aaron. Donc la patience, la persévérance, ce sont des qualités que nous devons développer. C'est important dans notre relation avec Dieu. Nous qui sommes dans l'attente du retour de notre Seigneur, comment va-t-il nous trouver? Est-ce que nous serons fidèles jusqu'au bout, jusqu'à son retour? Qu'est-ce qu'il va trouver dans nos cœurs quand il va revenir? Est-ce qu'il va trouver des fidèles? Est-ce qu'il va trouver des bons et fidèles serviteurs? Ou est-ce qu'il va trouver des méchants serviteurs? Et si nous sommes dans cette attente et que nous recevons ces instructions, nous lui serons agréables, je crois. Et si inversement, nous ne lui sommes pas fidèles, si nous sommes impatients, si nous n'attendons pas son retour comme le peuple n'a pas attendu le retour de Moïse, alors il nous trouvera comme de mauvais serviteurs. Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, verset 40-41, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Tout le monde ne sera pas pris, parce que certains seront infidèles, certains auront fait preuve d'ingratitude, certains auront été impatients, frappés d'aveuglement, et nous serons allés jusqu'au péché, jusqu'au produit du péché qui nous éloigne, qui nous coupe de Dieu. Et le danger est réel. Le danger, il est là, il est réel. Il ne faut pas croire, parce que nous sommes là présents ce soir, que nous sommes à l'abri de ce danger. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un ennemi qui est là, il est présent, il rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Et le premier qui va faiblir, il va le dévorer. C'est son plan, c'est son projet. Il veut nous couper de la relation avec Dieu. Il veut nous éloigner de Dieu, il veut notre perte. Ingratitude, infidélité, aveuglement, impatience. En fait, c'est de ces quatre choses-là qu'est né le veau d'or. Quatre choses qui sont peut-être présentes dans nos vies sans que peut-être même on s'en soit rendu compte. Ça fait un jour, deux jours, j'ai pas prié. Oh ben, ça fait une semaine, j'ai pas lu la parole. Bon, après tout, je suis pas si mal que ça. Bon, j'ai pas mis les pieds à l'église, ça fait 2-3 semaines. Oh ben, après tout, mais on vit pas si mal que ça, loin de l'église et loin de Dieu. Et puis l'idée fait son cheminement petit à petit. Je ne rends plus grâce à Dieu. J'ai de moins en moins de relations avec lui. Je suis de moins en moins fidèle dans la lecture de la parole, dans la communion avec mon Père Céleste. Et petit à petit, les choses s'installent. Je n'ai pas vu venir. Puis, un beau jour, je me réveille, le péché est là, il est matérialisé. Il y a une idole dans ma vie. Elle est là, elle a pris une grande place, ou toute la place. Ça peut être une idole qui prend la forme d'une addiction, d'une dépendance, qui peut avoir aussi des conséquences sur notre santé, mais surtout sur notre santé spirituelle, et nous amener jusqu'à un point de non-retour dans la relation avec Dieu. Il faut que nous ayons conscience de tout cela, et c'est ce soir le message que Dieu veut vous donner. C'est le message pour lequel j'ai eu beaucoup de difficultés à préparer tout ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a un ennemi qui ne voulait pas que quelqu'un, ou que nous tous d'ailleurs, ça vaut aussi pour moi. Un ennemi ne voulait pas que l'on entende ça. Quand on chante en Jésus seul, ça vient de Dieu. Voilà. Et je pense que le message ce soir, il est clairement, il vient clairement de Dieu. Alors le peuple d'Israël était dans l'erreur. Nous, on est enfants de Dieu. Nous devons nous situer où? Dans la vérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Amen. Alors, contre l'ingratitude, on va parler d'exercice spirituel. On va se redonner un peu de courage là maintenant. On va parler du mauvais, on va parler du bon. Des exercices, on fait des exercices le matin. Moi, je n'en fais pas. Je devrais en faire. Mais c'est bon de faire de l'exercice le matin. On appelle ça le réveil musculaire. On s'étire, on se met. Voilà. Bon, alors je partage avec vous quatre exercices spirituels pour. Faire de nos journées des journées de relation avec Dieu, des journées bénies, des journées sous le regard de notre Seigneur. Amen. Donc, contre l'ingratitude, travaillons là Gratitude. Rendons grâce au Seigneur. Pourquoi? C'est très simple, c'est notre Père. Il nous a créés. Amen. C'est pas une bonne raison de rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'il n'a pas répondu à tous nos besoins depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui? Quand je parle de nos besoins, je parle de nos besoins spirituels, de nos besoins matériels. Parfois c'est difficile, financièrement, etc. Il ne faut pas se le cacher. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne là-dessus, il faut faire attention. Mais est-ce que Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons besoin? Des vêtements? Bon, c'est peut-être pas les plus beaux vêtements, c'est peut-être pas des marques, je ne sais pas. De la nourriture, c'est peut-être pas, on ne mange pas au restaurant tous les jours, non? Mais on est là. Gloire à Dieu. Éphésiens 5:20 nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuellement, pour toutes choses, continuellement, tous les jours. Rendons grâce à Dieu. Si nous rendons grâce à Dieu tous les jours, ben nous réalisons ses bontés, nous réalisons ses bienfaits et nous le remercions. » Et là, vous voyez comme le produit du péché se matérialisait. Mais là, c'est notre gratitude qui se matérialise par une prière, par une relation de reconnaissance avec Dieu. Amen. Alors, je voulais partager avec vous une anecdote qui m'a touché. C'est un prédicateur anglais qui est né au XVIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Il s'appelait Matthew Henry. Et il a raconté dans son journal un jour où il a été attaqué par des bandits. D'accord ? Donc, c'était dans les années 1700 et quelques, donc c'était pas notre époque. Mais donc il avait été attaqué par des bandits. Et il dit, je le cite, « Je suis reconnaissant envers Dieu de n'avoir pas été volé plus tôt et de ceux qui m'ont pris la bourse, mais pas la vie. Car bien que ce fût toute ma fortune, ce n'était pas grand-chose. Et je suis surtout reconnaissant d'être le volé et non pas le voleur. » Merci Seigneur pour ce témoignage qui a plus de 400 ans, mais c'est tellement beau. Moi, ça m'a touché quand j'ai lu ça. Vous vous rendez compte? Un homme qui vient de se faire voler toute sa fortune, il dit, mais c'est rien. Dieu m'a gardé. Il rend pas grâce à Dieu d'avoir rencontré ces bandits. Il rend grâce à Dieu de l'avoir gardé, de l'avoir sauvé la vie. Et puis surtout, il rend grâce à Dieu de ne pas faire partie du mauvais camp, mais d'être au nombre de ses enfants. Amen. Dieu aime les cœurs humbles et les cœurs remplis de gratitude. Donc contre l'ingratitude, la gratitude. Contre l'impatience, la patience. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit, vous le savez. La patience, ça vient du Saint-Esprit. Et Paul nous dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, il nous exhorte à marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça s'apprend. Et ça s'attend. S'apostrophe. Il faut l'attendre. Il faut le demander, et puis il faut l'attendre. Dieu va nous bénir, Dieu va nous remplir de son Saint-Esprit. Mais nous devons avoir cette patience d'attendre cette bénédiction. Dans Actes, au chapitre 1 et au verset 4, après la résurrection, donc Jésus est avec ses disciples, donc Actes, chapitre 1, verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, atteindre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, et un peu plus loin, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Il leur demande d'attendre. Ça ne vient pas comme ça. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. La bénédiction, elle viendra, il l'a promis. Mais nous devons avoir la patience d'attendre. Amen. Un peu plus loin, on va lire dans Actes au chapitre 1 à partir du verset 12, on va voir que ils ont bien réagi, donc ils ont obéi, ils ont écouté les recommandations de Jésus et ils ont attendu patiemment. Ils retournèrent à Jérusalem. Au verset 13, ils montèrent dans la chambre haute. Un peu plus loin, au verset 14, ils persévéraient dans la prière. Voilà la bonne attitude spirituelle. Ils étaient patients et ils persévéraient. Et le résultat, acte 2, verset 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un peu plus loin au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La patience, la persévérance a produit un bon fruit. Elle a produit la bénédiction, le Saint-Esprit qui les a remplis. Amen. Contre l'aveuglement spirituel, nous pouvons nous exercer au discernement spirituel. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 39, C'est Jésus qui parle, qui dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient ne voient point. » Jésus est venu pour les perdus. Jésus est venu pour les pécheurs. C'est ce que dit la parole. Il est venu pour être la lumière de ce monde. Pourquoi ? Parce que ce monde est un monde d'obscurité. C'est un monde de ténèbres. Si nous n'avons pas reçu Jésus, alors nous sommes perdus. C'est aussi simple que ça. Et nous voulons passer de l'aveuglement à la vision. Et je dirais même la vision céleste. C'est la vision qui vient de Dieu. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Il veut que nous voyons. Il veut que nous voyons les choses avec sa vision. C'est tout bête, mais quand on a un choix à faire, quand on a deux possibilités, deux ou trois ou quatre possibilités, ce que nous demande Jésus, c'est de partager cette situation avec lui, de partager cette décision qu'il faut prendre avec lui. C'est ça le discernement spirituel. C'est pas de faire selon ce que nous on a envie. C'est pas de faire ce que nous on a décidé de faire. C'est faire la volonté de Dieu. Amen. Plaçons nos choix devant Dieu tous les jours, mais même pour des choix très simples. Une invitation, un achat, on a une décision à prendre par rapport à un travail, par rapport à un logement, je ne sais pas. Remettons ces décisions à Dieu. Quatrième exercice, la fidélité. C'est aussi un fruit de l'esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 68 et 69, c'est Pierre qui parle à Jésus. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. C'est aussi simple que ça. Pourquoi adorer telle ou telle idole ? Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Tout. Les promesses sont en Jésus. Vous connaissez la parabole des talents, avec le maître qui donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un, et puis les deux premiers vont faire fructifier, ils vont rendre 10 et 4, et puis l'autre qui avait enterré la pièce, ben, il rendra une seule pièce. Les deux premiers seront appelés bons et fidèles serviteurs. La fidélité. C'est ce que Jésus attend de nous. Et Jésus nous a donné quoi ? Il nous a donné sa parole. Pourquoi en faire ? Pour que nous la fassions fructifier dans nos vies. Qu'elle produise de bons fruits. Et un héritage nous attend à ses côtés pour l'éternité. Amen. Je reviens 2 minutes sur le produit de notre péché. Moïse dit, je le brûlais au feu, je le broyais jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, je jetais cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Le produit de notre péché, je disais tout à l'heure, c'est pas le plus important, c'est très important quand même. Parce qu'il matérialise notre péché, puis il fait du mal. Il fait du mal aux autres, et parfois il nous fait du mal à nous. Et il faut le chasser de notre vie. Et ici, Moïse le brûle, et puis après il le broie. Et après il jette dans le torrent qui descend de la montagne. Dans Lévitique 2,14, il est fait référence aux offrandes des prémices, et il est dit, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Et Dieu m'a parlé avec cette image. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas juste qu'on bannisse le produit de notre péché de nos vies. Il veut qu'on le brûle et qu'on le broie. Les prémices, c'était une offrande de ce qui renaît, vous savez, les cultures, les produits de la culture. On offrait des prémices en sacrifice à Dieu. Bien, je pense que quand Moïse détruit le veau d'or en le brûlant et en le broyant, il fait référence à ce sacrifice. Et nous aussi, je pense que nous sommes appelés à détruire le produit du péché qui est dans notre vie, pas juste comme ça, mais comme un sacrifice d'adoration pour notre Seigneur. Amen. Je parlais tout à l'heure du retour du Seigneur, et pour terminer, je voudrais partager un verset avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 8 et verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Il est le seul Dieu. Notre espoir est en Jésus seul, notre trésor est en Jésus seul. Qu'il nous garde, que le Seigneur nous garde alors que nous attendons son retour, qu'il soit le seul vrai Dieu dans nos vies, qu'il soit la seule idole dans nos vies, que son esprit nous apprenne à marcher selon la gratitude, selon la patience, selon la fidélité, et qu'il nous donne le discernement spirituel. Amen. Soyez bénis. Je crois que vraiment que le Seigneur voulait nous parler ce soir et nous dire que il attend de nous des cœurs sincères et remplis d'adoration pour lui seul. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, oui, pour ta parole qui est la vie et la vérité. Merci Seigneur pour ton message d'amour, ton message d'espoir. Oh Seigneur, ce soir nous te présentons nos cœurs, Seigneur. Regarde dans nos cœurs, Seigneur. Toi tu vois dans les cœurs, tu sais ce qu'il y a dans les cœurs, Seigneur. Oh, interviens, Seigneur. Interviens dans les cœurs qui contiennent des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Visite-nous. Arrache ce qui ne vient pas de toi jusqu'à la racine. Jette-le dans le feu, Seigneur. Et remplis toute la place qui va rester dans nos cœurs, Seigneur. Oh, nous voulons te dédier nos vies, Seigneur. Nous voulons être remplis de gratitude pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous voulons expérimenter la fidélité qui nous conduira jusqu'à toi. Donne-nous cette patience qui est un fruit de l'Esprit, Seigneur. Et ouvre nos yeux, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Amen.